Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Academy. Dans cette émission, au fil des pages, nous allons parcourir un ouvrage consacré à l'énergie. L'énergie fossile, les énergies de remplacement, la réduction de la consommation d'énergie, les conséquences climatologiques de cette consommation. Bref, vous l'avez compris, un ouvrage consacré à des sujets délicats, urgents, et controversé. Et pour évoquer ces questions d'énergie, j'ai le plaisir de recevoir Henri Prévost, dont le livre intitulé « Trop de pétrole » avec un point d'exclamation sur lequel il va s'exprimer, « Énergie fossile et réchauffement climatique » paru aux éditions du Seuil, a été distingué par le prix Zerili Marimo. C'est un prix décerné par l'Académie des sciences morales et politiques en 2007, un prix qui est annuel et destiné à récompenser une œuvre mettant en valeur le rôle de l'économie libérale dans le progrès des sociétés et l'avenir de l'homme. Henri Prévost, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous présenter non seulement votre ouvrage, mais surtout quelques-unes de vos idées forces. Car il faut le dire d'emblée, vos réponses sont originales et souvent à contre-courant de ce que l'on entend dire généralement. Alors je voudrais seulement rappeler, Henri Prévost, que vous êtes ingénieur des mines et que vous avez participé à plusieurs groupes de travail et de réflexion relatifs à l'énergie. Vous avez publié deux ouvrages sur l'économie, un sur l'économie de la forêt, l'autre intitulé « La France, économie, sécurité ». Et dans ce livre-ci, vous faites preuve, je crois, d'une grande volonté de distinguer entre les belles idées, les idées généreuses, et la réalité, dont la réalité financière des idées qui concernent l'énergie. Vous jugez qu'il règne une grande confusion dans tous les propos et dans toutes les solutions envisagées pour remplacer le pétrole, par exemple ?
Beaucoup de confusion, en effet, mais je dirais d'abord, comment peut-on dire ensemble et dans une même phrase que l'on va vers l'épuisement des ressources en énergie fossile et qu'on doit lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faudra savoir apprendre à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que ces émissions sont précisément dues à la consommation d'énergie fossile. Il faut savoir, si on va vers l'épuisement, et si ce qui est gênant, c'est l'épuisement, bon, mais luttons contre les... préparons-nous à l'épuisement, mais ne parlons pas d'effet de serre. Si le problème est que l'on va émettre trop de gaz carbonique, si l'on utilise toutes les ressources accessibles, eh bien, on ne va pas vers l'épuisement. Voilà. Donc, il faut bien choisir son problème. Et le problème est effectivement que notre consommation d'énergie fossile sera limitée par les possibilités d'émission, par la capacité de l'atmosphère à recevoir du gaz carbonique sans trop chauffer. Je donne juste deux chiffres. Pour que la température n'augmente pas par rapport à aujourd'hui de plus de 3 degrés Celsius en moyenne, ce qui serait déjà énorme, oui. Il ne faut pas envoyer dans l'atmosphère, d'ici 200 ans, plus de 1000 milliards de tonnes de carbone. Or, les quantités accessibles au prix où les consommateurs sont prêts à payer l'énergie sont au bas mot de 2000 milliards de tonnes de carbone. Donc, on a deux fois trop d'énergie fossile.
Ça, c'est un paradoxe que vous développez dans votre titre.
Et dès le titre. Alors, je dis le titre « Trop de pétrole », ça veut dire « Trop d'énergie fossile hein, », c'est ce que je veux dire, sachant qu'on peut très bien faire du liquide à partir de charbon. Hein, et du charbon, on en a en quantité considérable. Donc, c'est vraiment, oui, vous disiez qu'il faut clarifier les idées. C'est vraiment la première chose. On a trop d'énergie fossile comparé à ce que l'atmosphère peut recevoir sans trop chauffer. Et les conséquences sont colossales parce que si on va vers l'épuisement des ressources, surtout, il faut laisser le marché jouer. Et le marché permettra d'orienter les ressources vers qui sait les payer le plus, vers qui saura le mieux les utiliser. Par contre, si l'on en a trop, le marché est incompétent. Le marché ne sait pas gérer une surabondance. Il faudra une intrusion du politique dans l'économie pour nous amener tous, au niveau mondial, à consommer beaucoup moins que ce que l'on pourrait consommer, que ce pour quoi on serait prêt à payer hein, et qui serait accessible. Donc, à se tromper de diagnostic, on oriente très mal l'action politique. Dans le premier cas, en disant « on va manquer, on va vers l'épuisement des ressources ». On dit aux politiques, surtout, n'en faites pas trop, hein, laissez le marché jouer.
Ça, vous dites, c'est une erreur.
Tandis que ça, c'est radicalement une erreur fondamentale. Tandis que si l'on dit, il faut que l'on se prive, eh bien, c'est aux États à nous dire de ne pas consommer. Et à faire en sorte que l'on consomme moins, encore une fois, que ce que l'on serait prêt à consommer. Et alors, quand je dis l'État, là aussi, il y a un dilemme qui est fondamental, qui est très important. On a donc un réservoir de 2000 et il ne faut pas consommer plus de 1000. Bon. Donc, on sent bien qu'il faudra quelque part fermer des robinets. Ou bien on ferme les robinets du côté des pays consommateurs, ou bien on ferme les robinets du côté des pays producteurs. Si on ferme, l'orientation actuelle, c'est de limiter la consommation et que demander aux États de limiter la consommation. Mais pour limiter la consommation, il faut convaincre tous les consommateurs. Si on n'y arrive pas, eh bien, la régulation devra se faire parce que l'atmosphère sera trop chaude. Enfin, donc, le réchauffement aura des conséquences dramatiques. Donc, c'est les robinets des pays producteurs qui se fermeront. Et les pays producteurs, à l'époque, ça sera plutôt du charbon que du pétrole, hein, parce qu'il y aura moins de pétrole à cette époque-là, dans 20 ans, dans 30 ans. Et les pays producteurs de charbon pourront dire, eh bien, nous ne vendons pas notre charbon, tout le charbon que nous avons, cela fera monter les prix, ils ne s'en porteront pas plus mal, et ils feront ça en plus pour le bien de la planète. Voilà. Donc préparons-nous, si nous ne savons pas limiter notre consommation, préparons-nous à ce qu'un jour, les pays producteurs, détenteurs de charbon et de gaz, limitent eux-mêmes leur vente. Et ce qui n'est pas rien, quand on regarde quels sont les pays détenteurs de charbon et de gaz, alors c'est très impressionnant. C'est des choses qui sont peu connues.
Alors, peut-être. Lesquels ?
Alors,
la Russie détient du gaz.
La Russie a 17% du charbon et a énormément de gaz. Les États-Unis ont 25% des réserves mondiales de charbon.
Donc, ils sont tranquilles.
L'Inde et la Chine ont ensemble 25% du charbon. Pour ajouter l'Afrique du Sud et l'Australie, et vous avez à peu près 80% du charbon. Vous rajoutez l'Iran, qui a beaucoup de gaz, et vous avez donc en 7 ou 8 pays, ils sont détenteurs de l'essentiel des ressources. Si ça va mal au niveau mondial, il suffit qu'ils se mettent autour de cette table. Ce sont des pays, pour l'essentiel, qui sont les grandes puissances mondiales.
Oui, ce ne sont pas des pays émergents.
Ce ne sont pas les pays émergents, ce ne sont pas des petits pays qui n'ont pas de culture, etc. Ils ont les ingrédients, les composantes de la puissance et de la responsabilité mondiale. Hein. Ils vont se dire, nous sommes responsables de l'avenir de la planète, de l'humanité. Eh bien, nous sommes sages, nous allons serrer les robinets, fermer les robinets, et en même temps, ça fera monter le prix. Donc, il est clair que si la France diminue sa consommation d'énergie fossile, ça n'aura qu'un effet dérisoire sur les émissions mondiales, évidemment.
Exemplaire, peut-être, mais dérisoire.
Oui, exemplaire. Bon, quand on dit qu'on veut donner l'exemple à la Chine n'a pas besoin de la France pour... Non, c'est un petit peu cocorico de dire ça. Hein, bon, mais par contre, à cause de l'effet de serre, un jour ou l'autre, il y aura une limitation des consommations ou même de la production, de la livraison d'énergie fossile. Donc, dès maintenant, il faut s'y préparer. Et c'est comme ça que j'en arrive à la conclusion, elle aussi paradoxale, qu'à cause de l'effet de serre, nous avons intérêt à faire quelque chose, à réduire notre consommation, parce que dans 20 ou 30 ans, nous serons privés de ressources fossiles à cause de l'effet de serre. Nous ne devons pas, la raison pour laquelle nous devons diminuer notre consommation d'énergie fossile n'est pas que nous devons diminuer ou contribuer à la diminution des émissions globales, parce que notre contribution est minuscule. La vraie raison, c'est que, à cause de l'effet de serre, dans 20 ans, nous serons privés d'énergie fossile. Donc, il faut qu'on s'y prépare dès maintenant.
Nous serons dépendants. Et voilà. Effectivement, avec de nombreux tableaux, de nombreux encadrés, des définitions très précises dans votre livre, qui a un côté très pédagogique, vous affirmez que la France peut diminuer, c'est-à-dire diviser par 2 et même par 3 ses émissions de gaz carbonique. Ce n'est pas non seulement qu'elle le peut, mais qu'elle le doit.
Alors, pour les raisons que j'ai dites, hein, la France a intérêt à agir sans attendre de coordination mondiale.
Oui.
Ça c'est paradoxal, hein. Je l'aurais dit, ce n'est pas pour diminuer le total des émissions, hein, mais c'est parce qu'un jour, nous serons privés, pour des raisons stratégiques, d'alimentation. Donc, il faut s'y préparer. Et il faut bien 20 ou 30 ans pour apprendre à ne pas en avoir besoin. Hein. Donc, il faut modifier l'aspect des villes, rapprocher les logements des gares, par exemple, développer la technique des véhicules hybrides, électricité et carburant liquide. Il faut certainement aussi développer la production d'énergie nucléaire. Il faut développer la biomasse énergétique, hein, pour faire des biocarburants qui utilisent bien la matière première, enfin la matière agricole ou forestière. Tout cela prend du temps, développer les chemins de fer, etc. Bon, donc comme la France a intérêt à agir même seule, j'ai voulu voir si on avait les moyens. J'ai donné quelques techniques. Hein. Il faut isoler les maisons, naturellement, rajoutons cela. Et j'ai fait un tableau complet des ressources et des emplois d'énergie, ce qui, là aussi, se voit assez peu. On parle souvent de l'éolienne, du biocarburant.
Voilà, on les divise un peu,
sans avoir une vision d'ensemble. Donc, j'ai pris une vision d'ensemble, j'ai retenu ce qui, à mon avis, et d'après les informations qu'on m'a données, coûte le moins cher. Et j'en arrive à montrer que, globalement, c'est pas si cher que ça. Hein, c'est pas si cher que ça. Si le pétrole est à 60 dollars, il se peut que le pétrole revienne à 60 dollars par baril. Si le pétrole est à 60 dollars par baril, nous pourrons diviser par 3 nos émissions en dépensant un petit peu plus, évidemment, que si on ne se préoccupait pas d'effet de serre. Mais la différence représentera à peu près 1 ou 1,5% du PNB. Bon, c'est pas énorme, c'est pas une grosse dépense. Donc, il faudra qu'on dépense un petit peu plus pour l'énergie, pour consommer des énergies non fossiles ou pour éviter la consommation d'énergie. Mais la différence, encore une fois, est de 1 ou 1,5% du PIB. Voilà. Donc, c'est notre intérêt, hein, j'allais montrer, pour se préparer à un manque stratégique, hein, pour des causes stratégiques ou politiques d'énergie fossile, c'est notre intérêt. Deuxièmement, on peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Et troisièmement, ça ne coûte pas si cher. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu ça, il faut voir comment va faire l'État pour nous amener tous à diminuer notre consommation d'énergie fossile.
Henri Prévost, on se retrouve dans un petit instant parce que vous avez utilisé deux mots sur lesquels j'aimerais tout de même que vous développiez votre pensée. Le mot biomasse et le mot énergie nucléaire. On se retrouve dans un court instant.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où, jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
On retrouve Henri Prévost, auteur de l'ouvrage « Trop de pétrole !» Énergie fossile et réchauffement climatique, paru aux éditions du Seuil, un ouvrage qui a reçu le prix Zérili Marimo, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques en 2007. Et Henri Prévost, vous avez utilisé le mot « biomasse ». Est-ce que vous pouvez, j'ai l'impression que c'était un point de vue important dans votre livre. Pouvez-vous développer un peu votre idée ?
D'accord. En effet, bon, si on compare les quantités de gaz à effet de serre qu'on émettrait dans 30 ans sans se préoccuper d'effet de serre, hein, et celles qu'on va émettre si on veut beaucoup diminuer, par 2 ou 3 nos émissions, la différence est de 100 millions de tonnes de carbone, elle est de 100. Eh bien, la biomasse sur les 100 interviendra pour à peu près 25 ou 30. Hein. Les économies d'énergie pour à peu près 35. Et le nucléaire, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour une vingtaine aussi. Bon. Donc, la biomasse, c'est effectivement, je dirais, un des 3 piliers, hein, d'un programme de forte diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on entend par biomasse, ça peut être des produits forestiers, ou ça peut être des produits agricoles, des plantes qu'on a fait pousser spécialement pour faire...
Cultiver, faire le maximum
de biomasse. Alors, à partir de biomasse, actuellement, on fait du biocarburant, mais le biocarburant utilise vraiment, tel qu'on le fait maintenant, hein, de l'éthanol, du biodiesel, utilise très mal le sol, puisqu'on évite 1 tonne à 1,5 tonne de carbone par hectare et par an. Or, si on fait brûler la biomasse, on peut éviter jusqu'à 3, 4, 5 tonnes par hectare et par an en remplaçant du fioul ou en remplaçant du gaz. Or, le fioul est du carburant. Alors quand même, c'est plus malin de brûler la biomasse et de remplacer du fioul qui est du carburant, c'est la même chose que le gazole pratiquement, que de produire du gazole avec de la biomasse. Bon, on s'est mal orienté. Je crois d'ailleurs que le gouvernement maintenant s'en rend compte. Il va rectifier le tir. Bon, alors, la meilleure chose, c'est de le brûler. Mais on ne pourra pas utiliser à des fins thermiques toute la biomasse disponible parce que pour utiliser la chaleur de la biomasse, il faut l'acheminer. Alors, on achemine ou bien la biomasse, ce n'est pas très facile, ou bien on achemine la chaleur dans des réseaux de chaleur. Mais on ne va pas irriguer par des réseaux de chaleur toutes les maisons trop éloignées. Donc, il y a une limite. Et il y aura beaucoup de biomasse en plus. Alors, celle-là, on pourra la transformer en biocarburant, comme on dit, de seconde génération, des techniques qui sauront utiliser toute la biomasse et qui même pour faire davantage de biocarburants, pourront utiliser de la chaleur ou de l'énergie venant de l'extérieur. Donc, on va introduire dans le processus de l'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, qui pourrait être de l'énergie nucléaire, par exemple, ce qui permettra d'obtenir 3 tonnes et demie de carburant par hectare et par an, hein, c'est-à-dire presque 3 fois plus que ce que l'on fait à présent avec le biocarburant. Voilà. Donc là, on aura une bonne utilisation du sol pour produire du biocarburant. J'ai l'impression qu'on devra pouvoir produire à peu près l'équivalent de 40% de la consommation actuelle de carburant, vous voyez, sous forme de biocarburant. Et puis alors, une autre partie de notre carburant pourra être remplacée par de l'électricité, par des véhicules, dans des véhicules, comme on dit, hybrides, mais des véhicules hybrides qui pourront se recharger dans son garage ou au bord de la rue. On se branchera sur le réseau électrique et on pourra faire toute la circulation à l'intérieur des villes pour être à propulsion électrique. Comme ça.
Et ça, Henri Prévost, vous avez calculé que financièrement, c'était d'un coût possible.
Et justement, c'est intéressant de parler des coûts. Il serait bon de hiérarchiser toutes les actions qui sont envisageables pour diminuer nos émissions, de les hiérarchiser par coût croissant. En commençant, c'est qui est le moins cher. Alors, on trouvera que le moins cher, c'est probablement de mettre un isolant dans les combles de sa maison si vous ne l'avez pas fait. Bon, ça, c'est la première chose. Je l'ai fait récemment chez moi. Ça coûte vraiment pas cher et on économise vite fait un demi mètre cube de, ou voire plus de fuel chaque année. Ça, c'est la première chose. Bon, donc, on classe les choses, les actions possibles par coût croissant. Et on s'aperçoit que donc, les techniques dont je vous ai parlé, véhicules hybrides, isolation, si ça ne coûte pas trop cher, etc., permettent d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Et là, on s'aperçoit qu'il existe un indicateur ou un critère extrêmement simple pour distinguer ce qui est utile et ce qui est trop coûteux, et qui peut s'exprimer ainsi. Faites tout ce qui coûte moins cher que ce que coûterait l'utilisation d'énergie fossile si le fuel était à 1 000 euros par mètre cube, TTC, toute taxe, ou le gazole à 1,50 €. Voilà. Donc, avec ça, c'est très simple. Vous faites votre calcul d'isolation des maisons, vous installez une pompe à chaleur dans votre jardin, vous, etc. Les industriels se disent, tiens, si le gazole était à 1,50 €, est-ce que mes véhicules bi-énergie trouveront un marché Si la réponse est positive, c'est intéressant. Et alors, l'État, et vous vous tournerez vers l'État, alors il dit, donc voilà, je pourrais faire ça, mais le prix du pétrole n'est pas assez élevé. Hein, c'est le prix du fuel, et ben, il est élevé peut-être, mais il n'est qu'à 800 euros. Peut-être
tant que c'est moins cher, on prendra
voilà,
le pétrole.
Donc on ne fait pas. Alors là, le rôle de l'État, ça serait de dire, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, il faut que je rende possible toutes ces actions qui sont utiles. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien je les rends obligatoires, je mets une réglementation.
Une décision politique.
Une décision politique. Ou bien je les rends obligatoires. Ou bien je mets un impôt sur l'énergie fossile de façon à progressivement faire monter le prix du fuel jusqu'à 1 000 euros par mètre cube et celui du gazole jusqu'à 1,50 €. Voilà. Donc, ou bien je mets un impôt qui augmentera progressivement le prix à la consommation finale. Ou bien je donne une aide. Enfin, le président l'a dit, comment je peux piocher dans des tiroirs, des caisses qui sont vides. Hein. Donc, les aides, il ne faut pas trop y compter. Donc, les deux moyens sont la réglementation et un impôt, mais l'impôt conçu pour augmenter progressivement le prix à la consommation finale. Alors, évidemment, on va dire, c'est déjà cher, il faudra que ce soit encore plus cher. Bon, si on fait passer progressivement, en 30 ans, le prix du fuel, il est à 800 euros par mètre cube à présent à peu près, à 1 000 euros par mètre cube, c'est pas beaucoup en 30 ans. De la même façon pour le coût du gazole. Donc, je pense que c'est le prix minimum. Hein. Je crois qu'on peut pas faire moins cher. Mais en même temps, on peut dire que c'est pas très cher, 1% du PIB, comme je disais, et ça nous donne une sécurité d'approvisionnement, une autonomie énergétique qui, on le verra dans 20 ans, sera sans prix. Hein. Et c'est donc, ça c'est le discours politique qui doit être tenu, c'est de montrer les enjeux pour convaincre les gens de se préparer à une augmentation progressive du prix à la consommation finale du gazole et du fioul et du gaz.
Et quand vous dites progressive, ça veut dire pour vous 20-30 ans. C'est-à-dire c'est dès maintenant qu'il faut que l'État prenne un certain nombre de dispositions et de réglementations peut-être pour que dans 30 ans, on acquiert une indépendance énergétique.
Et exactement. Hein, ça ne peut
c'est
se
l'objectif
faire que,
en tout cas.
Ça ne peut se faire que progressivement. Hein. Je l'ai dit, changer l'aspect d'une ville, se mettre à jour sur le programme nucléaire, enfin la capacité nucléaire, tout ça demande beaucoup de temps. Et si l'on s'y prend à temps, l'augmentation sera progressive, tout à fait acceptable, et les gens sauront à l'avance quel sera le prix. Et je dirais que le prix, regardez aussi l'avantage, c'est que le prix ne dépendra pas du prix du pétrole. Si le prix du pétrole baisse, il faudra un impôt un peu plus important pour maintenir ce prix à la consommation finale. Et si le prix augmente, l'impôt diminuera. Les gens pourront faire leurs calculs en disant « ça vaut la peine que je fasse un réseau de chaleur à la biomasse », dira une commune, ou bien de la recherche sur les véhicules bi-énergie, dira l'industriel, ou bien installer une pompe à chaleur dans mon jardin, ou bien isoler ma maison, dira le particulier. Il pourra faire ses calculs avec des données certaines, en se disant « le prix à la consommation finale du gazole ou du gaz ou du fioul sera celui que l'État nous a dit voilà. ». Et avec ça, on aura une force sur la scène internationale, on sera autonome.
Et encore une fois, la force de l'indépendance.
La force de l'indépendance. Soyons tous très impressionnés par les quantités colossales d'argent qui se génèrent dans les pays producteurs de pétrole, de charbon et de gaz. C'est absolument considérable. On voit maintenant les fonds souverains, comme on dit, qui nous rachètent nos entreprises. Et regardez, la Russie, c'est la Russie qui est ultra riche en charbon, ultra riche en gaz, et qui en plus a un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui sait ce qu'il veut, qui se donne les moyens d'agir. Donc, il faut être très impressionné par cela. Et donc, vraiment, l'autonomie énergétique est essentielle, car il y aura une régulation sur l'énergie à cause de l'effet de serre.
C'est une des idées forces d'Henri Prévost. Alors, Henri Prévost, vous développez aussi dans votre livre, on va tout de même en dire un mot, des points de vue sur le nucléaire. D'abord, vous commencez par dire que les gens qui ont peur du nucléaire n'ont pas tort d'avoir peur du nucléaire, que le nucléaire, c'est évidemment un risque, mais que le réchauffement climatique, par exemple, par contre, lui, c'est une certitude.
Exactement.
Donc, le risque, ça peut s'assumer, ça peut se gérer correctement. C'est votre idée ?
Bon, il ne faut pas majorer le risque, dire qu'il est plus grand qu'il n'est. Mais il serait irresponsable d'oublier qu'il y a un risque. Et quand j'ai écrit le livre il y a à peu près un an, je sentais déjà que le balancier, parce que les opinions fonctionnent par coup de balancier, alors le balancier était contre le nucléaire et les arguments qui ont été donnés contre le nucléaire sont complètement irréalistes. Enfin, j'en ai fait une liste, c'est presque amusant. Mais maintenant, on se rend compte qu'on a besoin du nucléaire, c'est pas la panacée, mais on a besoin du nucléaire, c'est une composante pour notre autonomie énergétique. Donc, on va développer le nucléaire, mais il se pourrait que petit à petit, on oublie qu'on voit tous les avantages du nucléaire, on oublie les risques. C'est pour ça que j'ai commencé
le chapitre dire, il y a
en
vraiment
disant il y a un risque. Et là, j'aime bien me référer à ce que dit Jean-Pierre Dupuis dans le livre qu'il appelle « Le catastrophisme éclairé » et qu'il dit « Pour éviter la catastrophe, il faut s'imaginer qu'elle est là, qu'elle est quasi certaine. Et si on la voit quasi certaine, on peut l'éviter. Si on l'oublie, elle arrivera. » Voilà. Donc, il faut faire très attention et réunir toutes les conditions de la sécurité. On sait quelles elles sont. Et je crois qu'une des conditions de la sécurité, c'est que les entreprises qui ont du nucléaire soient préservées d'une trop grande pression due à la concurrence commerciale. Ça me paraît important, parce que si la présence, la concurrence commerciale, mais quand je dis concurrence commerciale, c'est au sens large, c'est pas seulement la concurrence sur l'électricité, c'est aussi la concurrence sur la rentabilité des capitaux. Une entreprise privée, elle veut faire le maximum de profit pour que ses actionnaires restent. Tout est bon, faut faire des économies. Bon. Donc, je crois qu'il est bon que le nucléaire soit sous un contrôle très présent, très, très attentif de l'État, que les prix de l'électricité nucléaire soient fixés par l'État, les capacités est indiquées par l'État, et pourquoi pas une entreprise nationale. Alors là, tout le monde va hurler quand je dis ça, mais alors je dirais que c'est le cas en Grande-Bretagne. La production d'électricité nucléaire est nationale en Grande-Bretagne. Bon, donc ça serait une façon de donner une sérénité aux producteurs d'énergie nucléaire, une sérénité qui sera propice favorable à la sécurité.
Vous l'aurez compris, les idées d'Henri Prévost sont souvent à contre-courant, mais jamais contre les vérités, en tout cas, ni contre la réalité. Henri Prévost, trop de pétrole, point d'exclamation, c'est-à-dire que finalement c'est une fausse idée, mais que le réchauffement climatique, lui, c'est un vrai problème, c'est un vrai risque. Alors, pour avoir des idées un peu plus claires sur ce sujet, je ne saurais que vous conseiller de lire cet ouvrage, Trop de pétrole, d'Henri Prévost, paru aux éditions du Seuil. Merci Henri Prévost.
Merci.